15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Avec le docteur Jimmy Mohamed, chaque jour pendant une heure, nous répondons à vos interrogations sur les sujets de santé qui vous préoccupent. Et nous tentons également chaque jour de vous faire du bien. Pour cela, il est à mes côtés dans ce studio, le docteur Jimmy Mohamed lui-même. Bonjour Jimmy.
Eh bien, deux fois Jimmy Mohamed, bonjour Mélanie.
C'est
normal,
on a bien compris votre nom, on ne sait jamais. Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'eczéma. À quelques jours de la journée mondiale contre cette maladie, nous avons décidé de faire un point sur cette pathologie de la peau. Vous verrez qu'il existe plusieurs formes d'eczéma et évidemment plusieurs traitements, mais nous parlerons aussi des soins de cette peau si sensible qu'il est primordial de mettre en place en routine et qui font plus que tout partie intégrante du traitement de l'eczéma. Pour en parler, nous recevrons le professeur Annick Barbeau. Elle est chef du service dermatologie et allergologie de l'hôpital Tenon et membre de la Société française de dermatologie. Ensuite, dans cette émission, avec le docteur Jimmy Mohamed, comme tous les jours, nous répondrons à vos questions, mais celles aussi qui concernent vos petits et gros bobos du quotidien. Et puis pour terminer, vers 15h50, comme tous les jours, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Elle répondra à la question d'un homme qui nous a interrogé sur les positions sexuelles.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Mais avant cela, pour ouvrir votre magazine santé, nous allons quand même faire un point avec l'établissement français du sang dans le contexte coronavirus. Et pour cela, nous accueillons en ligne François Toujas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'EFS, merci beaucoup d'être en ligne avec nous, car aujourd'hui vous faites un appel à quelques jours de la journée mondiale des donneurs de sang. Vos réserves sont très très faibles, je crois, et à quel point, s'il vous plaît?
Eh bien écoutez, effectivement, les réserves de sang sont faibles, voire très faibles, voire inquiétantes depuis la fin du mois de mai, puisque nous sommes aujourd'hui à 85 000 stock de poches de sang, alors qu'il serait mieux que nous soyons aux alentours de 90-95 000 poches de sang en stock. La raison, c'est qu'il y a une sorte de contre-coup que nous subissons suite au coronavirus, puisque le déconfinement a eu des conséquences fortes sur notre capacité de collecte, moins 20%, puisque nous ne connectons plus dans les universités, nous ne collectons plus dans les entreprises qui sont fermées, et donc on fait un appel important, j'ai même dit une mobilisation générale aux donneurs et aux donneuses, pour que nous puissions du 8 juin au 11 juillet, retrouver un stock convenable de poches de sang.
Mais François Toujas, est-ce que c'est quelque chose qui est assez classique au mois de juin, ou vraiment vous sentez cet effet du confinement, de l'épidémie? Parce que vos centres de collecte pendant le confinement, et on a essayé de faire passer le message plusieurs fois dans cette émission, ils sont restés quand même ouverts pour beaucoup d'entre eux, hein.
Il y a à la fois un moment qui est un moment que nous connaissons tous les ans, à la fin du mois de mai, début du mois de juin, on a des stocks qui sont relativement faibles, mais nous subissons aujourd'hui, je le disais, le contre-coup du déconfinement, puisque à cause du déconfinement, à cause du télétravail, à cause des fermetures d'universités et d'entreprises, nous ne pouvons pas déployer la totalité de nos collectes, 20% en moins, alors que c'est une traditionnellement, ce sont des moments forts de collecte dans les universités et dans les écoles. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, et je voudrais le souligner, nous avons mis en place l'ensemble des gestes barrières et des mesures de sécurité nécessaires à la protection des donneurs et du personnel, ce qui a comme conséquence que nous accueillons 5 donneurs par heure au lieu des 7 d'habitude.
Oui,
et puis, il faut le dire aussi, et c'est très important, nous voyons aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle finalement, reprendre l'activité hospitalière qui s'était très fortement ralentie pour prendre en charge les malades du coronavirus. Et ça a des conséquences fortes sur l'accroissement des besoins en dons de sang, plus 4, plus 5, plus 6%.
Docteur Jimmy Mohamed.
On a appris avec le Covid qu'il y avait beaucoup de personnes qui seraient asymptomatiques. Et une des craintes des donneurs, c'est d'éventuellement donner le sang en ayant le Covid et puis de peur de contaminer des receveurs. Est-ce qu'on peut les rassurer à ce niveau-là?
Alors on peut complètement rassurer les donneurs, puisque, et surtout les receveurs d'ailleurs, puisque le Covid comme virus respiratoire n'a aujourd'hui, il n'y a aujourd'hui aucune preuve, aucune trace de transmission par voie de transfusion, et c'est heureux et important de le dire et de le souligner.
D'ailleurs, si vous êtes resté ouvert sur les points de collecte malgré la crise, vous avez aussi eu un rôle très important à l'établissement français du sang. Je crois que vous avez quand même fortement contribué à des projets de recherche contre le Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors c'est une grande fierté qu'effectivement l'établissement a pu pendant cette période se mobiliser pour l'effort de recherche avec les partenaires publics, la PHP, avec l'INSERM, avec des grandes universités. Nous avons plus d'une dizaine de programmes de recherche importants. Alors parmi ces programmes de recherche, deux peut-être sont plus médiatiques que d'autres. Une première étude où nous avons comparé la population générale à la population des donneurs de sang. C'est ce qu'on appelle une étude de séroprévalence. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un donneur de sang? C'est avant tout quelqu'un qui est en bonne santé. Et donc, avec les échantillons biologiques que nous avons vérifié si et à quel niveau était présent le virus par rapport à une population plus exposée. Mmh. Et on a des résultats qui vont bientôt apparaître sur ce sujet. Et on aura d'ailleurs un suivi d'une cohorte de ces donneurs de sang sur le long terme. Ça, c'est une première étude. Ça, c'est l'étude de séroprévalence. Une deuxième importante est un essai clinique pour voir si les plasmas que nous pouvons recueillir de personnes qui ont été malades, qu'on appelle un plasma convalescent, voilà, et qu'on a collecté, peut ou pas avoir une efficacité sur le traitement de malades. Là aussi, l'essai clinique est en cours. Et puis, beaucoup d'autres études, des études sociologiques sur comment les donneurs, dans une période difficile, sont venus et ont continué à donner. Et puis, des études à plus long terme sur possiblement des solutions vaccinales, oui.
Oui, des travaux que nous suivrons avec attention. Jimmy.
Et donc, pour augmenter vos stocks en produits sanguins, vous lancez l'opération « Prenez le relais, un mois pour tout donner ». Une opération importante, car les problèmes avec ces produits, c'est qu'ils ne se conservent pas très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la conservation en moyenne? Et surtout, si on veut donner, où est-ce qu'on peut se rendre?
Alors, docteur, c'est un mois pour tout donner, TOUT, mais surtout un mois pour tous. Il faut que tout le monde, tous donner. Voilà. Alors, rappelez peut-être effectivement deux choses. Un, les produits sanguins sont la plupart du temps des produits qui sont absolument indispensables et ne peuvent être substituables par aucun autre médicament. Donc, ils sont absolument nécessaires pour la prise en charge des malades. C'est le premier élément. Deuxième élément, et vous faites bien de me le rappeler, il faut dire que l'effort doit être permanent puisque la durée de vie des produits sanguins est extrêmement limitée. 7 jours pour des plaquettes sanguines. Si on me prélève des plaquettes le lundi, il faut qu'elles soient administrées avant le dimanche. 42 jours pour les globules rouges. Ouais, ça veut dire que l'effort doit être permanent. C'est pourquoi nous déployons effectivement avec une grande ampleur une opération de communication et de collecte jusqu'au 11 juillet. Et vous serez reçus, les donneurs, les donneuses, dans la totalité de nos 120 sites fixes. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone, vous pouvez vous inscrire sur Internet, vous pouvez venir et vous serez accueillis. Nous avons plus de 40 000 collectes mobiles par an. Mmh. Il est absolument important et c'est un objectif essentiel que nous puissions atteindre 120 000 poches de sang en stock avant le début des grandes vacances.
Merci beaucoup François Tougès d'avoir accepté notre invitation et on l'a compris, donc les besoins en produits sanguins en France ne faiblissent pas, donc allons tous donner, c'est important. Merci encore.
Europe 1.
Dans quelques minutes, nous allons accueillir notre invitée. Pour le dossier du jour, c'est la dermatologue Annick Barbeau avec qui nous allons tout vous dire sur l'eczéma. La journée mondiale contre cette maladie, c'est samedi, donc on vous en parle dans un tout petit instant. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h comme tous les jours. Tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Annick Barbeau. Bonjour.
Bonjour Mélanie Gomez.
Ravie de vous avoir en studio avec nous. Vous êtes chef du service dermatologie et allergologie de l'hôpital Tenon et membre de la Société française de dermatologie. Première question, professeur, quand on parle de l'eczéma, j'ai l'impression que finalement, on a l'impression qu'on parle d'une seule maladie, mais il y a plusieurs formes en réalité. Hein.
Il y a plusieurs formes d'eczéma, deux principalement.
On va parler de ces deux-là.
Voilà, on va parler de ces deux-là. Et qui ont simplement en commun d'avoir les mêmes lésions cutanées. C'est-à-dire qu'un eczéma, c'est des plaques rouges qui démangent toujours, beaucoup. Mmh. Ce qui explique le retentissement sur la qualité de vie. Et ces plaques rouges, alors dans une forme un peu aiguë, vous avez éventuellement des petites cloques d'eau qui se mettent dessus, les lésions sont suintantes. Et dans des formes plus chroniques, c'est un petit peu ce que vous décrivez, la peau va être sèche, va s'épaissir, va se fissurer, ou alors être un petit peu croûteuse, comme ça. Mais dans les deux formes, ça démange énormément.
Et donc les deux formes, c'est eczéma de contact ou dermatite atopique. Alors, eczéma de contact, c'est quoi?
Oui, c'était les aspects un peu aigus ou un peu chroniques. Après, il y a les deux grandes sortes d'eczéma. Donc, eczéma de contact, dermatite atopique. Eczéma de contact, c'est quand votre peau ne supporte pas une molécule chimique qui vient à son contact. Très connu des femmes, puisqu'on sait qu'il y a à peu près 16% des femmes dans la population générale qui connaissent ce petit handicap. Si vous portez des bijoux fantaisie en nickel, vous avez immédiatement des rougeurs au niveau des lobes d'oreilles. Ça gratte, c'est très désagréable, il faut les enlever. La seule solution, quand vous offre des bijoux en or, c'est une bonne solution.
Ouais, ça va, c'est une bonne excuse. Je fais de l'eczéma de contact, désolée chérie. Et l'autre, la dermatite atopique.
Et la dermatite atopique, c'est différent. C'est une maladie chronique qui va commencer très souvent dans la petite enfance et qui va éventuellement évoluer par poussée durant toute la vie.
Docteur Jimmy Mohamed.
On a l'impression qu'on voit de plus en plus de patients ayant des dermatites atopiques. Est-ce le cas? Et si oui, avons-nous une explication à cette augmentation?
Alors oui, vous avez tout à fait raison. Il y a une augmentation du nombre de dermatites atopiques. La Société française de dermato a fait une étude sur la population générale française et on voit que le nombre de patients ayant de l'eczéma a été multiplié par 3 en 30 ans.
Ah oui, quand même.
Qu'on a 2,5 millions de Français qui ont un eczéma, alors de contact ou dermatite atopique, comme nous l'avons dit. Donc c'est vraiment une maladie, malheureusement, en expansion, vous avez tout à fait raison. Alors les causes, si on prend l'eczéma de contact, on est entouré de produits chimiques, donc vous pouvez vous sensibiliser à peu près à tout. Et en ce qui concerne la dermatite atopique, c'est peut-être là qu'il y a le plus d'analyses de pourquoi il y a de plus en plus de patients atteints. Bien, dans la dermatite atopique, il y a certes un facteur génétique, mais ça n'explique pas, il n'y a pas une mutation de la population générale en 30 ans. Il y a notre environnement, les soins de la peau chez le tout petit qui doivent être aussi tout à fait fondamentaux pour être déclencheur de cette dermatite atopique.
On les décape trop, on en parlera juste après. Il y a donc des millions, vous l'avez dit, 2 millions et quelques de patients qui souffrent d'eczéma au sens large. Parmi eux, il y a beaucoup d'enfants quand même.
Alors, il y a beaucoup d'enfants, effectivement. On considère, toujours dans la même enquête de la Société française de dermatologie, qu'il y a actuellement, dans les tranches d'âge de 0 à 7 ans, à peu près 20% des enfants qui ont ou qui ont déjà présenté des poussées d'eczéma. Heureusement, il faut quand même rassurer tout le monde, la plupart du temps, ce sont des formes bénignes qui vont répondre à des petits traitements locaux et surtout qui vont disparaître.
Jimmy ?
La période de Covid a été très riche en stress. Est-ce que ça a eu un impact sur l'eczéma ou la dermatite atopique des malades ? Et est-ce qu'on a une explication ? Est-ce que vraiment le stress peut déclencher des crises ?
Alors, la période Covid a plutôt éloigné les patients des consultations, bien qu'il y ait eu des téléconsultations. Il peut y avoir une aggravation avec le stress, c'est pas que la seule cause, hein, parce que pendant des années, on a dit aux patients qui avaient une dermatite atopique, c'est dans votre tête, c'est le stress. Non, il faut arrêter. Certainement, le stress, quand on a une dermatite atopique, le stress va aggraver les poussées, mais ce n'est pas la seule raison des poussées de dermatite atopique. Pendant le confinement, on peut voir peut-être plusieurs facteurs. Peut-être est-ce que l'on a pris des douches plus longues, plus chaudes, des bains. Est-ce qu'on a utilisé des bains moussants. Peut-être qu'on a profité de ces moments.
Chez nous, alors,
voilà. Pour
et le gel hydroalcoolique aussi, on l'a beaucoup utilisé, donc on s'est
alors,
parfois aussi un peu abîmé les mains.
Sur les mains, oui. Le gel hydroalcoolique, attention. Alors, quand on a un eczéma, quand on a des fissures, c'est insupportable. Mais pour des personnes qui ont une fragilité cutanée, il vaut mieux utiliser du gel hydroalcoolique que des lavages répétés avec du savon. Ça déclenche moins de dermite d'irritation ou d'eczéma des mains. Alors, par contre, attention, parce qu'on voit des erreurs, n'utilisez pas de gel hydroalcoolique et ne mouillez pas votre peau juste après. Ce n'est pas un savon. Et là, un gel hydroalcoolique plus de l'eau, ça crée des brûlures cutanées et une grosse irritation.
Merci beaucoup, professeur Barbeau. Ne bougez pas, on ne fait que commencer cet entretien. On vous retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, on rentre un peu plus dans le concret. Comment se traite l'eczéma de nos jours? Avant de parler des médicaments en eux-mêmes, nous ferons un point d'abord sur les gestes du quotidien. Comment doivent se laver les patients qui souffrent d'eczéma et chez les enfants touchés aussi? À quel rythme les nettoyer sans décaper leur peau déjà fragile? Bref, on parlera des gestes et des soins de routine chez ces patients qui font déjà partie du traitement. C'est juste après. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et vous, professeur Annick Barbeau. Je rappelle que vous êtes donc chef du service dermatologie et allergologie de l'hôpital Thenon et membre de la Société française de dermatologie. Alors avec vous aujourd'hui, on parle d'eczéma. On va peut-être parler un tout petit peu des enfants tout de suite et même des bébés. Vous le disiez un petit peu tout à l'heure, beaucoup sont atteints de cette maladie cutanée qu'est l'eczéma. Et peut-être parce qu'on a tendance finalement à un peu trop décaper leur peau. Finalement, le bain pour un bébé, aujourd'hui un nourrisson par exemple, il ne faudrait pas le faire tous les jours, je crois.
Tout à fait, ça fait plaisir à toute la famille, mais ce n'est pas bon du tout pour la peau des petits. La dermatite atopique dont on parle beaucoup, c'est avant tout une anomalie de la couche la plus superficielle de notre peau, qu'on appelle la couche cornée, qui est très fragile. Donc, si vous plongez votre bébé dans un bain chaud, de façon prolongée, avec des produits un petit peu moussants, vous allez contribuer à encore fragiliser cette couche cornée qui est très, très fragile. Et une couche cornée fragile, eh bien, elle ne protège plus correctement notre peau. Elle vous rend beaucoup plus sensible à tous les irritants, éventuellement aux allergènes de l'environnement. Et également, elle va aider malheureusement à une évaporation trop importante de l'eau qui est dans nos cellules de l'épiderme.
Oui, la peau est très hydratée,
sèche.
Ouais,
voilà.
Bien sûr.
Donc en fait, si vous aggravez ce phénomène déjà qui est à l'origine de la dermatite atopique par des soins d'hygiène pas adaptés, eh bien, vous risquez d'augmenter les lésions et d'aggraver la maladie.
Et donc, on a un enfant déjà qui a de l'eczéma ou pas, c'est quoi la bonne règle? On le lave tous les combien? À quelle température? Avec quel produit?
Alors, le bain, c'est 2 fois par semaine maximum, pas plus de 10 minutes, pas plus de 37 degrés.
C'est très clair au moins. Docteur Jimmy Mohamed.
Est-ce que ça marche aussi pour les adultes? Est-ce qu'on devrait aussi peut-être se doucher un peu moins et utiliser les mêmes précautions? Une douche, c'est un peu plus écolo. Et pas trop chaud non plus, ou finalement c'est la peau des bébés qui est plus fragile et donc on peut être un peu plus, on va dire, souple avec nous?
Alors si la peau des bébés est fragile, et en plus elle est en éducation, enfin comme tout son système immunitaire, chez l'adulte, si vous avez une peau normale, vous avez de la chance, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Malgré tout, on remarque quand même assez rapidement que si on reste très longtemps dans un bain, que vous y mettez beaucoup de bains moussants, de produits très...
À 40 degrés.
Quand vous ressortez, c'est un petit peu sec. Et dans les jours qui suivent, la peau est très sèche. Alors, par contre, si vous avez déjà un terrain de dermatite atopique, là, c'est formellement contre-indiqué parce que ça suffit à déclencher les poussées. Vous prenez un grand bain prolongé, vous mettez du bain moussant et vous restez à 40 degrés pendant 3 quarts d'heure et vous êtes sûr que le lendemain, vous faites une poussée de votre eczéma.
Donc, pour les gens qui souffrent d'eczéma, c'est plutôt douche, forcément.
Absolument.
Et pas trop chaud. Et avec quel produit ils se lavent?
Alors, plutôt avec des huiles ou des pains sans savon. C'est surtout pas d'agents moussants qui vont trop décaper la peau. Il y a des choses maintenant très bien formulées, très agréables également, parce qu'il faut aussi que ça soit agréable. Vous
bien
allez
sûr.
Vivre avec une peau fragile, il faut que vous ayez une cosmétique agréable. Et il y a eu beaucoup d'efforts des firmes durant ces dernières années.
Jimmy ?
Vous l'avez expliqué un petit peu, l'eczéma ou la dermatite atopique, en gros, c'est sec et ça gratte, pour schématiser. Où est-ce qu'on peut retrouver les lésions? Est-ce que c'est forcément de la tête aux pieds où il y a des zones électives plus touchées?
Alors, il y a des zones effectivement plus touchées qui vont varier dans le temps, dans la vie. Chez le petit, ça va être les zones un petit peu convexes, c'est-à-dire les joues, les fesses. Quand l'enfant grandit et chez l'adulte, il y a des zones que l'on appelle bastions, où l'eczéma va rester très longtemps et surtout qui va être le siège des premières inflammations. Ça revient toujours au même endroit. C'est les plis des coudes, c'est derrière les genoux. Il y a également le cou. Parfois le visage et également, malheureusement, parce que ça pose problème pour le travail, les mains chez l'adulte.
Professeur Barbeau, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Sans rendez-vous revient dans un instant. Nous allons vraiment passer au traitement médicamenteux de l'eczéma, car il n'y a pas que les crèmes à base de corticoïdes. Celle-ci reste très importante. D'ailleurs, vous verrez qu'il est important, en tout cas dans cette maladie, de lutter contre la corticophobie. Les dermatologues insistent beaucoup là-dessus. On va vous expliquer tout ça très vite. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Avec nous toujours en studio, c'est vous, professeur Annick Barbeau. Vous êtes chef du service dermatologie et allergologie de l'hôpital Tenon et membre de la Société française de dermatologie. Alors, professeur Barbeau, on va passer quand même au traitement à proprement parler de l'eczéma. Peut-être quand même juste avant, parler de l'importance de ce soin de la peau, parce que ça fait partie du traitement, le crémage, comme je dirais. Soigner sa peau, la graisser en quelque sorte, c'est très très important.
Oui, graisser sa peau, sans l'agresser, si j'ose dire, est extrêmement important. Donc, le soin quotidien, c'est vraiment fondamental. On sait qu'on réduit de 50% les poussées d'eczéma si on adopte des bonnes habitudes quotidiennes. Donc, on a parlé de ne pas prendre des produits très savonneux, très moussants, mais surtout, il va falloir hydrater cette peau. Donc, avoir des produits qui vont crémer, qui vont bien surgraisser cette peau.
Jimmy ?
Et c'est important aussi de faire cette éducation auprès des enfants. À partir de quel âge un enfant peut commencer à mettre de la crème tout seul ?
Alors, dans les, il y a des structures d'éducation thérapeutique qui se développent, en particulier pour l'enfant avec une dermatite atopique. Et on peut voir des enfants qui comprennent très bien, dès l'âge de 5 ans, des méthodes, alors on leur fait appliquer comme des petites coccinelles, on met des petits points de crème, ils appliquent en tournant sur chaque petit point de coccinelle et ils savent le faire. Il faut les rendre autonomes puisque c'est un, il faut pas prendre ça comme une maladie, mais comme une peau un petit peu sensible et donc il faut qu'ils apprennent tout seul à la gérer au quotidien.
Ça, c'est le quotidien, c'est la routine, mais il peut y avoir aussi des poussées d'eczéma avec une inflammation très forte. Là, on fait quoi? Alors, il y a les crèmes corticoïdes, on va en parler. C'est toujours quand même le traitement de référence?
C'est le traitement indispensable et c'est le traitement de référence. Lorsque la peau devient rouge, quand elle est inflammée, il faut calmer cette inflammation et le traitement de référence, c'est le corticoïde en crème.
Jimmy?
Mais le problème, c'est quand on parle de corticoïdes, tout d'un coup, dans la tête des parents, c'est cortisone. Est-ce qu'on peut rappeler que ce n'est pas tout à fait la même chose et les risques ne sont pas les mêmes, surtout si on l'applique correctement?
Alors, on a bien montré que les corticoïdes en crème, donc qu'on appelle topiques, ont une pénétration minime, voire nulle, au niveau systémique. Donc, on n'a pas du tout les effets d'un comprimé de cortisone absorbé la bouche. Ça n'a pas du tout cette influence. Et c'est parfaitement supporté. D'autre part, on a montré que si on en met très peu, c'est pas très efficace. Et finalement, à la fin de l'année, vous allez en mettre beaucoup plus en quantité que quelqu'un qui applique bien ses corticoïdes en crème. À savoir, lorsqu'il y a une plaque rouge, on applique une bonne épaisseur de corticoïdes et on arrête le jour où la plaque rouge a disparu.
Alors vous dites on arrête, mais je crois quand même que ces corticoïdes sur les zones bastions dont on a parlé tout à l'heure, les pieds du coude, enfin les zones un peu résistantes chez les gens où il y a beaucoup d'eczéma qui sont les plus touchées, là c'est toute l'année, toute la vie presque.
Alors ça, ça a été des grandes avancées de ces dernières années de faire ce traitement qu'on dit proactif, qui conduit à, sur les zones bastions, appliquer un corticoïde en crème 2 fois par semaine. Et ça, de façon très, très prolongée, effectivement. Donc, c'est une petite routine, une petite habitude à prendre.
Jimmy ?
Quand les corticoïdes ne marchent pas, si on doit passer à l'étape supplémentaire, les immunosuppresseurs, par exemple, est-ce qu'on a un arsenal thérapeutique efficace ?
Oui, l'arsenal s'est beaucoup élargi ces dernières années. Alors, déjà, en crème, on a d'autres choses que les corticoïdes maintenant. On a un immunosuppresseur, le tacrolimus en crème. Et sinon, par ailleurs, lorsque le traitement local n'est plus suffisant, il faut vraiment donner beaucoup d'espoir aux patients parce qu'il y a des traitements immunosuppresseurs par la bouche. Il y a la cyclosporine en particulier sur laquelle maintenant on a un grand recul. Et surtout l'arrivée de ces nouvelles biothérapies qui jouent sur des interleukines et qui entraînent une amélioration pour les formes les plus graves de dermatite atopique qui résistaient auparavant aux traitements locaux.
Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison d'avoir un eczéma qui résiste. Vous avez quand même un arsenal très large pour traiter l'eczéma.
Alors l'arsenal s'est grandement élargi et il continue à s'élargir puisqu'il y a d'autres molécules qui sont en préparation, qui sont déjà en essai thérapeutique et avec des résultats extrêmement prometteurs. Donc c'est pourquoi il ne faut pas que le patient s'isole dans son eczéma avec son mal-être. Il y a énormément de solutions, mais effectivement, il faut aussi lui apprendre à connaître cette peau. Il y a tout le travail d'éducation thérapeutique qui est fondamental.
Merci beaucoup, professeur Barbeau, d'avoir accepté notre invitation et merci pour toutes ces précisions donc, sur la prise en charge de l'eczéma qui s'est fortement amélioré ces dernières années. Grâce à vous, on y voit plus clair. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Santé revient. Ce sera le vrai faux avec le docteur Jimmy Mohamed. Nous allons répondre à vos questions santé bien-être, celles que vous nous laissez sur notre répondeur au 3921. On revient très vite sur Europe 1. A tout de suite.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Tout de suite, on retrouve notre vrai faux, vos questions santé bien-être au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de David.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai entendu parler des shampoings solides. Je me demandais c'était quoi l'avantage par rapport à l'environnement et si ça lavait vraiment bien les cheveux. Et comment on l'utilise en gros, concrètement ? Merci beaucoup.
Bon, Jimmy, une question sur les shampoings, c'est clairement pour vous. Hein, vu votre chevelure flamboyante, j'imagine que vous utilisez du shampoing solide.
Écoutez, je vais casser un mythe, mais j'ai des pellicules, Mélanie. J'ai une dermite séborrhéique, oui, mais c'est lié au stress et ce sont les gens brillants qui sont stressés.
Donc c'est parfait.
Donc j'ai une explication.
Allez, plus sérieusement, pour répondre à cette question bien-être, nous avons interrogé une spécialiste, c'est Pauline Dehec. Elle est ingénieure en cosmétique, on l'écoute.
Alors les shampoings solides, effectivement, peuvent avoir des avantages. Après, encore une fois, si on part sur une composition la plus clean qu'il soit, on va avoir les silicones en moins, puisque les silicones, on trouve ça beaucoup dans les shampoings liquides. Mais du coup, ils étouffent à terme le cheveu, même si ça fait un aspect brillant sur le moment. Voilà, c'est quelque chose qui va abîmer à terme le cheveu. On va avoir également les sulfates en moins. Les sulfates sont des tensioactifs assez irritants pour les cheveux et qu'on va pas retrouver dans les shampoings solides, ce qui fait qu'on aura quelque chose de plus doux à terme. Et puis, de toute façon, les shampoings solides ont des compositions relativement courtes avec des ingrédients comme des poudres de plantes qui vont être intéressantes pour renforcer le cheveu, des beurres, des huiles aussi qui nourrissent le cheveu. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est de bien faire mousser entre les mains et puis ensuite d'émulsionner sur les cheveux. Évitez de passer le shampoing solide à même le cuir chevelu pour pas trop irriter. Mais ça va laver tout à fait aussi bien qu'un shampoing liquide.
Voilà pour la réponse de Pauline Dehec qui était au micro de notre journaliste adoré Benjamin Lévesque. Alors à présent, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est une question pour vous, Jimmy. On écoute donc la question de Pierre Laurent.
Bonjour docteur, bonjour Mélanie. Je vous appelle car j'ai souvent mal au dos et je vous avoue que je suis assez sédentaire. Je bosse à la maison donc c'est assez fréquent comme mal. On me dit que effectivement il faut que je bouge plus, ça c'est sûr. Mais si je devais prendre un sport, lequel serait le meilleur pour remettre mon dos en place ? Est-ce que la natation peut-être serait bénéfique ? Quel serait votre avis ? Merci beaucoup et bonne journée.
Bon Jimmy, c'est vrai que maintenant on le sait, c'est prouvé scientifiquement, bouger c'est ce qui arrange le plus les choses quand on a mal au dos. Rester en mouvement, c'est vraiment très important.
Oui, exactement. Alors, quand on interroge Winston Churchill, on lui demandait sur le secret de sa bonne santé, il répondait « no sport ».
Ah.
Donc pas de sport. Mais il avait totalement tort et on a pu se rendre compte avec le confinement, les personnes qui sont restées sédentaires au domicile et qui avaient à la base des lombalgies, eh bien, elles ont eu plus mal du fait d'une inactivité. Donc évidemment, la meilleure façon de traiter le mal de dos, c'est d'être en activité perpétuelle. Mais c'est valable aussi pour toutes les autres pathologies rhumatismales.
Très bien. Alors, il nous demande, Pierre-Laurent, quel sport choisir ? Il évoque la natation. C'est vraiment le meilleur ? C'est vrai qu'on l'entend souvent, la natation.
Oui, bon, après, il faut mettre un maillot de bain, le bonnet de bain, non, on a l'air ridicule.
On demande pas si ça vous plaît, on demande si c'est bon pour
néanmoins,
le dos.
Néanmoins, pour le dos, c'est vraiment ce qu'il y a de plus adapté, puisqu'en fait, on limite l'effet de la pesanteur avec l'eau et la pression qui est exercée sur les disques intervertébraux, qui sont souvent les plus sollicités lorsqu'on a des problèmes lombaires. Eh bien, elle est minime. Et donc, c'est vraiment l'exercice
parce
le plus
flotte,
important.
Et donc c'est plus...
Exactement, ouais. Et vous renforcez de façon homogène tous les groupes musculaires. La seule chose, c'est que faut faire attention juste à la technique. Il faut éviter la brasse. Si vous faites, c'est plutôt la brasse coulée.
D'accord.
Puisque si vous mettez la tête hors de l'eau,
peut-être.
Vous cambrez et vous sollicitez le rachis cervical. Et donc, vous allez forcément être plus, avoir plus de douleur. En revanche, vous avez le droit de faire aussi
ma brasse
du
coulée,
vélo.
Donc c'est nickel, le vélo.
Du vélo, du gainage, parce que ça renforce les muscles paravertébraux et les muscles abdominaux, le stretching ou le yoga, puisque finalement, vous allez libérer la tension musculaire et le stress que vous pouvez avoir qui est source de lombalgie, mais vous pouvez aussi vous contenter de la marche. Une marche peut suffire à condition régulière de faire des petites foulées. Ça permet de limiter les torsions, les mouvements de torsion sur la colonne vertébrale. Toute activité physique est bonne, même si on pense que la natation, ce serait le mieux. Mais voilà, n'importe quel sport, faites-la faire. Attention, si vous courez, les chocs du sol sur vos genoux, sur vos dos, c'est pas très bon. Tout le monde s'est mis à courir. On pense que d'ici quelques années, on pourra avoir une épidémie de gonarthrose, d'arthrose du genou.
Ouais, d'accord.
Parce que tout le monde court et parfois un peu n'importe comment.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Pierre-Laurent qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on va retrouver Catherine Blanc et sa chronique sexo, comme tous les jours. Aujourd'hui, avec elle, nous allons parler des positions sexuelles. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être et l'amour et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et donc, pour la sexo, c'est qui rentre?
Eh bien, c'est Catherine Blanc.
Et voilà, c'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris qui nous rejoint tout de suite en studio. Alors Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Julien. Julien, il a 40 ans. Il nous a écrit la chose suivante. Avec ma copine, nous sommes ensemble depuis 4 ans. Sexuellement, ça se passe relativement bien. J'ai juste remarqué une chose. Je n'arrive à jouir uniquement dans une seule position à chaque fois. Comment l'expliquer? Catherine, c'est normal de jouir toujours dans la même position? Parce que ça a l'air d'être la question.
Eh bien, oui, c'est en tout cas, ça se comprend. Ça, c'est normal, pas normal. Ça, oui. Évidemment, les choses sont un peu plus
c'est classique.
Voilà, c'est assez classique. Ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est
pas. Il n'y en a pas d'autres qui fonctionnent.
Qu'il n'y en a pas d'autres qui fonctionnent et que ça pourrait pas tout d'un coup virer un peu à autre chose pour s'offrir.
Pour moins s'ennuyer.
Oui, et puis pour donner la possibilité à la relation de faire aboutir la sexualité et du coup cette éjaculation et pas simplement une mécanique qu'il faut mettre en route pour arriver à son terme. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait qu'il fait l'amour, il fait l'amour, il fait l'amour, et puis à un moment donné, il faut se mettre dans la position pour
arriver
top
au bout.
Départ.
Ouais, voilà. D'accord, c'est un peu mécanique. Là, quand
du
même,
coup,
ouais.
C'est un peu mécanique et ça sort de la relation et de l'excitation avec l'autre, mais plutôt de façon masturbatoire, finalement. Mmh. C'est trouver la position qui fait qu'à ce rythme-là, dans cette position-là...
À tous les coups, ça marche.
À tous les coups, ça marche, comme si je me masturbais, en quelque sorte.
Mmh. Jimmy ?
Mais c'est une histoire de quoi ? De sensation physique, la position dans laquelle il fait ça ? Ou est-ce que c'est lié peut-être à une excitation visuelle, la position en tant que telle et pas tellement les sensations, ou peut-être à une somme de tout
C'est les deux. En fait, ça dépend. Ça peut être les deux, comme ça peut être que l'un. C'est effectivement une question de la relation, de ce qui se joue. Par exemple, avoir la vision sur le visage, les seins, les fesses, selon... Et du coup, c'est ce qui va être source d'hyper-excitation. Ou alors, ça va être parce que, justement, il se sent plus contenu ou il peut être plus actif et moins dans la dépendance à l'autre, en quelque sorte. Et du coup, il reprovoque le rythme qui participe de sa masturbation et donc il reprovoque pour pouvoir arriver jusqu'à son
éjaculation. D'ailleurs, Catherine, vous êtes une très grande professionnelle puisque Mélanie rit comme une adolescente depuis tout à l'heure.
Pas du tout,
non. Mais ça
n'a rien à voir.
Absolument pas, mais vraiment bravo Catherine, vous êtes imperturbable.
Bon, merci.
Catherine, je reprends mon sérieux. De façon plus globale, on va dire.
J'ai affaire à des ados, moi, je vous le dis.
De façon plus globale, sans parler forcément du cas de Julien, est-ce qu'il y a des positions qui permettent de jouir plus facilement ou plus rapidement? Là, en l'occurrence, pour le cas d'un homme, en tout cas.
Des positions
ouais. Est-ce qu'il y en a vraiment qui marchent à tous les coups? Est-ce qu'il y en a qui sont plus classiques pour arriver à l'orgasme?
En fait, je pense que fondamentalement, vous avez toutes les positions où l'homme est en tranquillité et dominant, c'est-à-dire la position du missionnaire, puisque là, il sait exactement ce qu'il fait et il va faire son rythme, il va plus ou moins se frotter, plus ou moins être plus autonome dans cette position-là. Là, c'est plutôt pour une histoire de mécanique et aussi peut-être pour une position de domination, d'être sur elle. Sinon, après, il y a toutes les positions de dos, où la femme est de dos, parce que c'est la vision des fesses, ou se coincer entre ses fesses, justement, pour être plus contenu par son pénis, par les fesses de cette femme. Et là, ça peut être extrêmement excitant, mais aussi parce que mécaniquement, il se sent plus contenu. Donc, c'est un ensemble vraiment de fantasmes, et c'est un ensemble de techniques où l'homme se sent contenu.
Jimmy ?
On présente ça comme si c'était un problème, mais est-ce qu'il doit s'en soucier ? Est-ce qu'il doit essayer de chercher à faire ça autrement ? Ou s'il est content et que son compagne ou sa compagne est satisfaite, on peut peut-être continuer comme ça ?
Oui, surtout si dans la mesure où elle y trouve aussi, c'est une position qui lui plaît, tout va bien. Ce qui est plus problématique, c'est quand la sexualité se passe bien, il y a une jolie relation entre les deux, et à un moment donné, hop, hop, allez, je te mets comme ça ou je te mets comme ça, parce que moi, je vais aller jusque-là. Et là, c'est toute la partie où elle n'est plus dans la relation, elle n'est plus qu'un moyen.
Ce n'est pas que... d'ailleurs quelle est cette position qui marche à tous les coups. Si c'est un truc hyper acrobatique, elle peut ne pas aimer non plus. Hein.
Oui, mais même si ce n'est pas acrobatique, vous savez, si vous avez le sentiment que tout d'un coup, vous n'êtes plus dans la relation, que vous n'êtes plus que utilisé, eh bien, à ce moment-là, vous êtes observateur ou observatrice d'une situation qui vous échappe et qui, du coup, vous fait complètement sortir de l'érotisation de la relation. Donc, ce n'est pas problématique en soi. Mais ça peut l'être pour le couple, ça peut l'être pour cette femme qui s'y ennuie pendant ce temps et qui a le sentiment que finalement tout ce qu'elle offre en dehors, c'est-à-dire dans sa façon de bouger, dans sa façon de le regarder, dans sa façon d'être active elle aussi, tout ça n'amène jamais à la jouissance et c'est que quand il fait son petit scénario que ça l'amène à la jouissance. Et du coup, ça peut créer un désordre dans la relation et un doute, un manque de confiance pour elle, compte tenu du fait qu'elle se sent peu participante de cet aboutissement-là, de cette partie-là de la sexualité. On ne va pas réduire la sexualité à cette partie-là de toute façon.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans son rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui avec nous, une grande actrice française, Elsa Silberstein. Elle nous a régalé avec ses petites vidéos hashtag mytho, très très drôle pendant le confinement. Elle est avec nous aujourd'hui pour parler de son rôle dans le nouveau film de Claude Lelouch qu'on pourra voir samedi soir sur Canal+.
C'est parfait, je vais rester à l'écoute évidemment, puis je vais vous prescrire un petit sirop aussi parce que j'ai l'impression que vous avez un petit chat dans la gorge, ça ne va pas le faire pendant 2 heures. Alors je suis là, vous inquiétez pas.
Oh,
et vous aussi. Surtout, restez sur Europe 1. Hein.